Bonjour à toutes et tous. Que nous apprend l'archéologie des pratiques alimentaires des peuples qui nous ont précédés, en particulier leur consommation de végétaux? Qu'avons-nous conservé, au propre comme au figuré, de l'assiette romaine et peut-être du fameux régime méditerranéen? Pour cette entrée du menu, j'accueille Margot Tillier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, spécialiste de carpologie, discipline scientifique qui étudie les paléosemences. À n'en pas douter, vous compléterez cette définition. Vos recherches portent sur l'économie végétale et les paysages antiques des zones littorales méditerranéennes et plus spécifiquement les ports. En 2019, vous soutenez votre thèse portant sur l'économie végétale et échanges en Méditerranée romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle de notre ère. Études carpologiques de contexte portuaire. Vous êtes rattaché à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Depuis, vous avez collaboré à un très grand nombre de recherches, en particulier la découverte exceptionnelle de contenants céramiques dans le dépotoir immergé d'Arlon III. Vous travaillez pour le Bureau d'études et de recherche archéologie océanographie ipso facto, basé à Marseille, premier opérateur en archéologie préventive en milieu sous-marin et subaquatique. Après cette trop brève présentation, je vous cède la parole.
Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors, ma présentation va s'organiser en différentes parties. Je vais vous présenter déjà qu'est-ce que la carpologie, pour que vous ayez un petit aperçu. Ensuite, qu'est-ce que les contextes archéologiques que l'on étudie. Et puis, quelles sont les finalités des analyses et un petit peu les pratiques alimentaires à l'époque romaine. Alors, qu'est-ce que la carpologie ? C'est l'étude des graines, des fruits et d'autres éléments anatomiques de la plante, comme les feuilles, par exemple. Et par extension, on analyse aussi les préparations alimentaires que l'on peut retrouver conservées dans les sédiments archéologiques, comme les restes de pain, de préparations comme des bouillies, de céréales, des galettes, par exemple. Donc ces vestiges végétaux, on les appelle plus communément dans notre discipline les carporestes. Donc carpos, ça vient du grec qui veut dire fruit. Donc on étudie les fruits et non pas les poissons comme on peut parfois le croire. Donc on prélève ces restes-là sur les sites archéologiques. Donc on prend la terre dans différents contextes archéologiques, on va procéder à différents protocoles, donc on prend cette terre, on la tamise, ensuite on va passer ces refus sous loupe binoculaire, on va sortir chaque reste carpologique que l'on retrouve, ensuite on les identifie, donc on a des collections de références de graines actuelles, on peut les comparer puisque c'est les mêmes, en tout cas pour la période romaine qu'il y a 2000 ans, donc on peut les comparer à l'actuel, et on les compare aussi avec des atlas de référence, on a des photographies, on peut comparer ces restes-là avec des données anatomiques et des données métriques. Donc une fois qu'on a fait ces déterminations, on compte bien sûr tous les restes et on fait des analyses statistiques pour voir quelle plante était la plus importante à telle période. Et cela nous permet de comparer après ces données-là à des données qu'on a pour d'autres sites archéologiques et de pouvoir réaliser des synthèses sur les pratiques alimentaires, l'agriculture, etc. Donc en carpologie, les restes que l'on retrouve le plus, en tout cas en milieu sec, ce sont des restes carbonisés, donc c'est-à-dire qu'ils sont passés au feu, donc volontairement ou non, et donc les éléments organiques se transforment en carbone, mais ça n'a pas assez brûlé pour que ça se transforme en cendre. Donc on a la chance de retrouver ces restes-là. C'est ce qu'on retrouve le plus communément, et on retrouve également parfois des restes qui sont gorgés d'eau, donc c'est-à-dire qu'ils sont restés en eau dans une ambiance anoxique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène qui a pénétré les sédiments, et donc ces restes-là sont conservés dans l'eau, et on peut repêcher, entre guillemets, des noyaux de pêche qui ont 2000 ans, et on croirait que c'est quelqu'un qui l'a mangé la veille et qui l'a rejeté, donc voilà, c'est assez exceptionnel. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard, justement, pour Arlon III, ce qu'a évoqué Hugues. Et parfois, on peut aussi retrouver des restes minéralisés. Donc là, c'est surtout dans des latrines ou des zones de stabulation d'animaux. Donc là, c'est de la circulation souvent d'eau, d'urine, qui permet la conservation des restes. Et donc là, on peut savoir ce que les gens ont mangé et ce que les animaux ont consommé également. Donc je vous ai parlé de contextes archéologiques, ils sont vraiment très diversifiés et c'est primordial pour nos analyses de savoir dans quel contexte on a sorti ces restes-là. On peut analyser par exemple des puits, des fosses, des fours, des sols d'habitation. Donc ce qu'on va retrouver dans ces contextes-là, on va les interpréter différemment de ce qu'on va retrouver par exemple dans un dépotoir d'un port par exemple. On a des interprétations très différentes, mais on peut aussi analyser des tombes, des bûchers, etc., des structures de production, de vin par exemple. Donc voilà, on a plein de contextes archéologiques différents et ça va nous permettre, ces différentes analyses, tout combiné, de pouvoir retracer la consommation. Et donc là, quelles sont les finalités? En effet, c'est de déterminer quelles étaient les caractéristiques de la consommation, donc alimentaire mais aussi symbolique, j'en parlerai un petit peu à la fin de ma présentation. Les caractéristiques de la production, les transformations aussi, et les échanges de denrées végétales, quelles denrées on importait, lesquelles on exportait, et puis aussi quelles espèces nouvelles étaient introduites et à quelle période, puisque on a un paysage actuel avec des arbres et on n'a pas forcément la notion de quand sont arrivés ces éléments-là. Donc on a, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Et puis bien sûr, quelles sont les caractéristiques du paysage, qu'il soit anthropisé, donc modifié par l'homme, ou alors naturel, donc par exemple des bords des eaux, etc. Donc moi je me suis principalement concentrée dans le cadre de mes recherches sur les plantes économiques, principalement alimentaires, mais on sait que les plantes, là vous le verrez j'imagine, autour des différents stands. Hein. On a d'autres usages que les usages alimentaires. On a des usages techniques, comme pour les plantes qui servent à teinter de manière naturelle, colorer des tissus, par exemple. On a des plantes médicinales, ornementales et symboliques. Donc, mes recherches, bien sûr, je ne les fais pas de manière isolée, puisque j'ai bien sûr plein de collègues dans des disciplines différentes. En premier lieu, les archéologues qui permettent de comprendre le site archéologique. Mais aussi, on a d'autres disciplines, les gens qui étudient par exemple les charbons de bois, les pollens de plantes, on a des personnes qui étudient les céramiques, plein de choses, des objets métalliques, etc. Et c'est la combinaison de toutes nos analyses qui permettent de retracer notre histoire passée. Donc pour ce qui est de la période romaine, quelles étaient les caractéristiques des pratiques alimentaires? Donc cette période, elle est caractérisée par un développement des échanges en Méditerranée. Donc le commerce était florissant et s'organisait sur de longues distances. Donc les fruits jouaient un rôle dans ce commerce. Il est parfois ce rôle un peu difficile à approcher. Et c'est ce qui a concerné mes recherches. Et la diffusion des valeurs romaines, elle se fait notamment par les pratiques alimentaires. Et le port, c'est un objet d'étude privilégié, puisque c'est une zone d'interface entre les villes, l'arrière-pays et la Méditerranée. Donc c'est par le port que se faisait l'arrivée de ces nouvelles espèces, ces nouveaux produits, ces plantes cultivées. Et parmi les ports que j'ai eu la chance de pouvoir étudier, on peut citer par exemple Narbonne, Arles, Lattes ou encore Fréjus et Antibes. Donc à la période romaine, qu'est-ce qu'on mangeait? Alors beaucoup de céréales. Donc sous la forme de bouillie, de gruau, mais aussi des pains et des galettes. Donc vous en avez peut-être déjà vu quand vous avez fait des visites dans des musées archéologiques, peut-être à Clermont-Ferrand. Et on retrouve aussi des vestiges archéologiques, donc de ces restes-là, et notamment des contenus de préparation alimentaire. Donc je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc ces céréales, elles sont les aliments de base qui sont consommés à la période romaine. Donc les principales, ce sont les blés et l'orge. Mais on a une diversité assez importante de céréales qu'on commence à essayer de rechercher maintenant pour avoir des céréales un peu ancestrales. Et bien sûr, le blé froment était très important dans l'alimentation puisque c'est une céréale panifiable. Donc on l'a favorisé à cette période-là pour pouvoir réaliser des pins notamment. Et donc ces analyses de pins archéologiques qui ont été menées, donc, elles ont montré qu'on ne faisait pas du pain qu'avec ce blé froment, ce qu'on pensait hein, au départ, puisque c'est une céréale panifiable, mais on utilisait aussi de l'orge ou d'autres blés. Le seigle aussi a été mis en culture à cette période-là. Et on sait notamment que l'empereur Auguste avait mis en place un système d'aide, ce qu'on appelle l'annone, avec de la distribution de céréales pour la population de Rome. Donc quand on sait que Rome avait 1 million d'habitants environ au 1er siècle de notre ère, vous imaginez un petit peu le balai de bateaux et les importations de céréales qui venaient de la Méditerranée, donc notamment de Gaule. Il y avait de la production de céréales, mais essentiellement aussi l'Égypte, qui était considérée comme le grenier de Rome. Donc ces pains et préparations alimentaires, elles sont assez rares en archéologie, mais en tout cas, en Gaule, on les retrouve carbonisés, donc ce que je vous ai dit. Et donc, on a des exemples très beaux qu'on retrouve par exemple à Pompéi. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais en tout cas, on a des très beaux exemplaires. Et on voit déjà à cette période-là qu'on a différentes formes qui sont faites avec ces pains-là, donc différentes farines, comme je vous l'ai dit. Et donc, on peut approcher les techniques de levage, etc. Donc, c'est très intéressant. On retrouve également dans la consommation romaine, bien sûr, des légumineuses, donc des lentilles, des fèves, des pois, par exemple, des vesses, des légumes, donc qui sont assez diversifiés, comme la bette, le melon concombre, le radis, ou encore le navet, le panais, les carottes, donc des choses qu'on peut consommer aujourd'hui. Des épices, donc c'est des éléments secs de la plante, des herbes et plantes aromatiques. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pour les recettes. Et donc, on a des aromates comme la coriandre, etc., qui sont utilisés déjà dès cette période-là. Donc, tous ces aromates venaient agrémenter les plats. Et on consommait également des fruits cultivés ou sauvages. Donc, on pratiquait toujours la cueillette, hein, par exemple les noisettes, même si on a pu potentiellement le mettre en culture. Donc, les principaux fruits qui sont consommés à l'époque romaine en Gaule sont donc le noyer, le raisin, l'olive, la pêche, donc les noisettes, mais aussi les pommes, les poires, etc. Et on consomme aussi des fruits donc qui viennent de contrées plus lointaines, comme les jujubes, les dattes. Voilà, on a des attestations de ces fruits-là locales. Donc bien entendu, on a ces fruits, ces céréales, etc. que l'on consomme, mais on a des produits dérivés qui ont une grande importance durant l'époque romaine. Donc c'est principalement le vin et l'huile d'olive. Donc ces vestiges en carpologie démontrent que la vigne était cultivée donc déjà depuis bien longtemps en Gaule avant les Romains, mais en tout cas dans différentes zones géographiques. Et pour ce qui est de l'olivier, on a pu mettre en évidence sa mise en culture, surtout en Provence, puisqu'il est un petit peu plus capricieux. Donc il aime bien avoir un bon ensoleillement. Pardon. Et donc, évidemment, on retrouve des structures de production, des pressoirs, mais aussi des amphores qui transportaient ces produits dérivés. Et durant l'Antiquité, on avait donc des bateaux qui étaient chargés de ce vin et de cette huile d'olive. Donc l'huile d'olive, principalement, venait d'Andalousie. Donc, qui naviguait tout autour de la Méditerranée. Et on en a retrouvé notamment des épaves chargées qui permettent aussi d'analyser ces contenus. Alors, ce que je peux vous présenter un petit peu, c'est les fouilles d'Alronde III, donc, qui ont été notamment co-dirigées par Mourad El Amouri, qui est présent aujourd'hui. Et Alronde III, c'est un bateau qui a été retrouvé, un bateau à fond plat, qui a été retrouvé dans le Rhône. Et par-dessus, s'est installé un dépotoir gigantesque avec des milliers et des milliers de restes archéologiques qui se sont accumulés. Donc, c'est des rejets anthropiques. Des rejets des hommes qui étaient là. Et donc on a de la consommation dans la zone portuaire, mais à la fois sûrement les habitants aussi qui rejetaient des choses dans le Rhône. Et donc, parmi ces restes-là, on a retrouvé des choses magnifiques, hein, du mobilier en verre, des céramiques, des amphores. Et donc, moi, je me suis chargée de l'analyse des contenus des vases et amphores qui ont pu être retrouvés dans le Rhône. On se demandait si on pouvait retrouver des restes alimentaires dans ces céramiques. Alors, généralement, on n'en trouve pas. Mais heureusement, Arles-Rhône 3 est exceptionnel et donc a livré des restes conservés, donc là, gorgés d'eau. Et donc, dans différents contenus, j'ai pu retracer des recettes anciennes qui avaient été donc réalisées il y a 2000 ans. Donc, notamment une amphore qui a livré plus de 400 pépins de raisin. Donc après, on fait des recherches aussi par rapport aux sources textuelles, qu'est-ce que ça pouvait être. Et c'était certainement des fruits séchés ou confits qui étaient conservés à l'intérieur de cette amphore. Dans une autre amphore, j'ai retrouvé des noyaux d'olive qui étaient associés à des restes de raisins. Mais là, les raisins, ce n'était pas seulement les pépins, mais on avait tous les éléments de la grappe. Et quand on recherche un petit peu quelle recette ça pouvait être, c'était certainement du mou cuit de raisin et qui était donc associé et qui permettait de conserver les olives. Donc ça, c'est connu aussi par les textes antiques. Donc ça nous aide bien. J'ai également retrouvé une autre amphore remplie de noyaux d'olive associés à des graines d'aneth. Donc là, on a encore d'autres méthodes d'assaisonnement. Et puis enfin, le clou du spectacle, dans le fond d'une amphore, j'ai retrouvé une botte d'origan entière, donc toutes les tiges avec plein de graines, des milliers de graines, et associées à des noyaux d'olive. Donc ça, c'est bien connu dans les textes antiques. Et donc là, on peut vraiment approcher, c'est émouvant, on peut approcher les recettes antiques. Voilà. Donc ces végétaux, on le voit bien, ils ont un rôle alimentaire, et donc je vais finir sur leur rôle symbolique. Donc on a des produits qui sont parfois rares, comme les dattes, qui sont souvent associées aux élites romaines, et qui avaient également un lien avec la mort, puisque c'est un lien avec, comment dire, avec l'immortalité, d'où son nom, Phénix dactylifera, donc Phénix renaît de ses cendres. Ensuite, on a aussi parfois des restes de plantes ornementales, notamment comme le cyprès qui était planté dans les jardins, aussi dans les façades maritimes pour signaler des ports ou des zones à retrouver. Et on le plantait également dans les zones funéraires. C'est à partir de la période romaine qu'on importe cet arbre et qu'on le plante localement. Et on le retrouve encore actuellement, hein, en tout cas dans le sud de la France, dans les contextes funéraires. Donc voilà, un petit peu pour le tour d'horizon de qu'est-ce que la carpologie, qu'est-ce que ça nous apporte. Et voilà.
Merci Margot Tillier pour cette fascinante entrée romaine qui a aiguisé notre appétit. Je me permets de citer l'ouvrage collectif auquel vous avez contribué sous la direction de Mireille Cherubini, Latin de cuisine, quand l'archéologie arlésienne nourrit la gastronomie romaine, édition Saveur et Savoir 2018. Alors avant de nous quitter, Margot, quel slogan ou quelle citation souhaiteriez-vous mettre en exergue de votre conférence et partager avec nos convives ?
Alors, c'est une citation de Pline l'Ancien qui dit « L'homme doit au vin d'être le seul animal à boire sans soif ».
Alors, avec ce beau slogan, on va terminer ce premier moment de conférence et maintenant un petit entremets musical avant le prochain plat.
Mensonges amicaux. Je mens comme je respire, je mens et ça m'inspire, et je m'en fiche bien. Je suis menteur à gage depuis mon plus jeune âge, j'excelle dans le sabotage. Je suis menteur à gage, ne crois qu'en ce langage, je vous jure que c'est vrai. Je suis menteur à gage depuis mon plus jeune âge, j'excelle dans le sabotage. Je suis menteur à gage et pour vous je m'engage, je vous jure que c'est vrai.